Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Judaïque à Strasbourg pour ce nouveau numéro de talk show. Cette semaine, on va parler des élections américaines. Le 4 novembre dernier, on le sait, Donald Trump a été réélu nouveau président des États-Unis pour la deuxième fois, malgré tous les sondages qui prévoyaient la victoire de Kamala Harris. Et pour nous parler de Trump, du Parti républicain, nous avons en ligne avec nous Isaac Bar-Shushat, qui est le porte-parole du Parti républicain américain en France. Bonjour, M. Bar-Shushat.
Bonjour, M. Choukroun.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, en deux mots, quel est votre rôle en France concernant le Parti républicain ?
Écoutez, nous, franco-américains vivant en France, avons à cœur de représenter les valeurs du Parti républicain, de Republican, qu'on connaît aux États-Unis en France. D'abord parce qu'il y a une grande communauté américaine qui vit en France, presque 200 000 citoyens américains vivant en France. On connaît l'influence des États-Unis et la relation très particulière avec la France, et que nous avons un travail durant toute l'année de mobilisation, d'événements et d'informations dites générales et notamment culturelles. Et là, en l'occurrence, depuis les élections, pouvoir représenter, expliquer, justifier, débattre avec une presse qui n'est pas toujours tendre avec le président maintenant élu, et pouvoir représenter toutes ces valeurs au sein de la société française.
Les franco-américains sont plutôt rangés à droite ou à gauche ?
Alors, c'est difficile de dire si en France, il y a plus de républicains que de démocrates. J'aurais tendance à dire que dans la communauté juive, comme on l'a vu aux États-Unis, ça suit la même logique. On a beaucoup plus de démocrates que de républicains, même si on a vu que cette élection, on en reviendra dessus, a évolué et le vote juif a un petit peu changé. C'est vrai qu'on aurait tendance à penser qu'il y a plus de démocrates vivant en France, en Europe, parce que ces valeurs... on parlera du wokisme et autres, qu'on retrouve souvent malheureusement en Europe, sont très présentes. Mais avec l'arrivée de ce qu'on peut penser des extrêmes en Europe, on retrouve une souveraineté américaine, on retrouve des valeurs nobles, on retrouve des frontières, on retrouve tout ce qui faisait, fut un temps, la vie d'une nation, et qui souvent a été insultée, vulgarisée, et qui maintenant redevient à la mode depuis que l'écrasante victoire de Donald Trump, de manière tout à fait démocratique et républicaine.
Alors, on va parler de ça. En fait, tous les sondages donnaient Kamala Harris devant Donald Trump de quelques voix. Il se trouve que Donald Trump a gagné cette élection, mais très largement, avec tous les swing states qu'il a eu. Comment vous expliquez cette victoire et cette large victoire ?
Alors, nous, on n'explique pas, puisque depuis le début, nous étions convaincus que Donald Trump allait gagner, allait effectivement être président des États-Unis pour les quatre prochaines années. C'est vrai que on s'attendait à un combat un peu plus difficile, mais sa victoire a été complètement écrasante sur toutes les statistiques, et il a fait, comme on dirait, 3-0, le grand chelem. Il a gagné la présidentielle, il a gagné le Sénat, et il a gagné la Chambre des représentants. Donc il a fait un strike. Cette victoire est due tout simplement au rejet de la société américaine des valeurs que Kamala Harris et donc Joe Biden ont portées pendant 4 ans. Le wokisme, les manifestations, le sentiment d'insécurité aux États-Unis, l'inflation galopante, le prix de la vie qui a explosé aux États-Unis, et le fait qu'il y ait une certaine légitimité aura américaine qui s'est effondrée sur la place internationale. On l'a vu avec les conflits en Ukraine et en Russie. On l'a vu l'administration Biden incapable de régler ou d'aider Israël ou de régler ce conflit-là. Et que déjà, on voit quelques jours de l'arrivée de Trump, les choses évoluent. Et donc, c'est ce sentiment que les Américains ont voulu exprimer par leur vote en disant Trump incarne ce modèle américain, ce rêve américain. Oui, on le sait que c'est un personnage, mais nous en reviendrons puisqu'on l'a vu, on a quand même évolué depuis son élection. Et il incarne cette puissance américaine, et c'est aussi ça que les Américains ont voulu exprimer dans ce vote.
Isaac Bar-Shushat, on le sait, dans l'Europe, et particulièrement en France, il y a une sorte de anti-Trumpisme, notamment dans les médias. À votre avis, c'est dû à quoi ?
Le bon français que je suis aussi dirait, c'est de la jalousie.
Ouais.
Mais ça serait limité de dire cela.
Alors ?
Parce que c'est pas tout à fait ça. Oui, il y a effectivement une certaine jalousie vis-à-vis des Américains, vis-à-vis de ce que représente Donald Trump, et on le voit aussi Elon Musk, la réussite, être brillant, et tous ces phases qui vont avec aussi. Mais c'est aussi, aujourd'hui, la pensée bienveillante, la bonne pensée qu'on veut nous imposer. C'est aussi ce que Macron a voulu nous faire croire en 2017, dont on voit aujourd'hui les limites de la chose. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays européens. On voit que le leadership allemand a aussi énormément de difficultés à s'exprimer et à se faire respecter. Et qu'en Europe, on a voulu, et les médias aussi, ont voulu infuser ces idées-là. Et on voit aussi, et c'est la raison pour laquelle, en répondant à votre précédente question, il y a eu un rejet de cela. Et je crois que nous sommes qu'au début d'un mouvement que peut-être Trump a fait naître aux États-Unis, le fameux MAGA, Make America Great Again, dont il a dit...
Qui veut dire en français élection,
ben, rendre la puissance, rendre l'Amérique plus forte, grande, hein, rendre la splendeur à l'Amérique. Et on le voit aujourd'hui, et à l'issue de son vote, des élections qui ont eu lieu le 15 et 5 novembre, qu'il a annoncé tout de suite dans la nuit que MAGA était né et que peut-être allait donner des ailes à d'autres. Alors on voit en France que la question qui nous a été posée à nous dans les médias, c'est ce qu'il pourrait y avoir un Trump à la française. Oui et non. Je pense qu'il n'y a pas de Trump à la française, parce qu'en France, culturellement, on ne fonctionne pas de la même manière. Mais clairement, il a ouvert des portes. Mmh. Alors, certains diront c'est le Rassemblement National, d'autres diront Reconquête, d'autres diront autre. Mais en tout cas, il a ouvert des portes à ce que les pays, les peuples, puissent reprendre, ressaisir leur destin, leur destinée. Et qu'aujourd'hui, c'est aussi ça que les médias réalisent. Moi, je l'ai vu de manière assez flagrante, que le discours et l'approche qu'on a pu avoir essuyé pendant de longues semaines, avant l'élection, était très difficile, et qu'une fois élu, il y a eu un peu plus de bienveillance et un peu plus de respect. Et tant mieux. Mais si Donald Trump, l'arrivée au pouvoir de Trump, qui se fait de manière beaucoup plus apaisée maintenant, et on le voit avec une transition beaucoup plus structurée, peut apporter un peu de stabilité aux États-Unis, dans le monde, et surtout aussi en France, on en a besoin, pourquoi pas ?
Alors, on a beaucoup parlé de la victoire de Trump parce qu'il était anti-woke, beaucoup de choses, en fait. C'est vraiment la victoire des anti-woke qui a été prouvée par l'élection de Donald Trump. C'est un vrai projet.
Écoutez, on a vu des choses qu'on aurait pu ou jamais penser aux États-Unis. Je pense déjà à cette agressivité que dans les campus que nous avons connus c'est-à-dire depuis de longs mois. Nous avons vu une agressivité dans la façon dont la culture américaine se développe. On a vu en Californie des comtés entiers, des maires, des gouverneurs autoriser les vols jusqu'à un certain montant. On a vu que maintenant on ne sait plus qui est le père, qui est la mère. On a vu qu'on dit toujours he ou she, il ou elle. On a vu plein de choses se développer aux États-Unis qui est théoriquement un pays très conservateur, qui aujourd'hui a fait dire que ce n'est plus possible de fonctionner comme ça, il faut mettre un stop à cela. Donc la victoire de Trump, oui, représente un échec considérable pour le wokisme, représente un mandat d'arrêt, on va dire, pour le wokisme en Europe, hein, parce qu'il faut aussi comprendre qu'en France et en Europe, on a aussi ça.
Mais vous pensez que ce qui s'est passé aux États-Unis va aussi arriver en France ?
Ben, on l'a déjà, puisque on l'a vu sur le conflit israélo-palestinien, qui n'a pas agité autant d'animosité que le conflit russe-Ukraine, les débordements. Les débordements flagrants. Alors, tout le monde parle d'antisémitisme, mais c'est plus d'antisémitisme, non, c'est beaucoup plus loin. C'est un problème d'une maladie de société. Et ça, aujourd'hui, on est incapable, nous, en France, de se dire, mais il faut se réveiller, il faut réagir. Parce qu'on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de leadership, on a un Macron absent. Et ça, c'est aussi l'arrivée de Trump qui permet de donner une alerte aux autres pays. Je rappelle quand même un point important. Macron, moi je me rappelle, j'étais sur RTL le 5 novembre au matin, a été le premier dirigeant au monde à féliciter la victoire de Trump, alors même que le résultat n'était pas encore arrêté. Alors, c'est-à-dire qu'il n'avait pas atteint le seuil du nombre de grands électeurs. Donc ça aussi envoie un message, je pense, de la France vers les États-Unis.
Alors, cette élection, évidemment, on va en parler tout à l'heure, va évidemment être intéressant au niveau du monde. Au niveau américain particulièrement, les thèmes autres que la Grande Amérique, ça a été un thème social, économique, financier. Et où en est-on aux États-Unis et vers quoi on ira avec l'arrivée de Donald Trump ?
Alors, bon, il n'y a effectivement pas que le sujet de Trump, sa personne, Trump, ses débats ou ses difficultés juridiques, c'est aussi l'immigration. Donc l'immigration, je pense que tout le monde en a parlé, l'immigration contrôlée, l'immigration voulue et désirée, la frontière, le mur avec le Mexique et le Canada. D'ailleurs, il y a une guerre économique qui est en train de se préparer contre ces pays-là pour les pousser à ce qu'ils prennent leurs responsabilités, mais c'est surtout l'économie. Trump est un businessman. Trump est un businessman. Il a toujours fait du business. Pendant longtemps, il ne voulait pas faire de la politique. Mmh. Il l'a dit sur plusieurs antennes. Il s'est mobilisé ces 10 dernières années parce qu'effectivement, il voit son pays partir à la dérive. Aujourd'hui, l'économie américaine, qui a toujours été très forte, est effectivement en dents de scie avec des grandes difficultés. Et qu'on a beaucoup d'Américains, et je peux en parler en tant qu'expert comptable franco-américain, des Américains qui viennent vivre en France ou en Europe parce que c'est très difficile pour eux de subvenir à leurs besoins aux États-Unis. Ça s'est jamais vu par le passé. Mmh. Donc Trump veut remettre des règles. Il veut remettre du protectionnisme tout en étant ouvert vers le monde extérieur. Il veut remettre cette phrase qui s'appelle « America first », l'Amérique en premier. C'est notre « nous » à façon de dire « made in France hein ». Donc il veut remettre ça aussi. Ce qui me paraît du bon sens, il y a une inflation galopante qu'il veut arrêter. Il y a un coût de l'immobilier qui explose. Et malgré qu'on peut penser qu'il y a un taux de chômage assez raisonnable ou plus bas, dont la France devrait peut-être envier ce taux de chômage, on rappelle qu'il n'y a pas de SMIC ou de France Travail ou autre aux États-Unis. Donc c'est aussi ça qui fait que, et remettre entre guillemets les États-Unis au centre de l'Amérique d'abord, hein, pour protéger les Américains et leur proposer cette façon de travailler qui va permettre de les rendre plus riches, et après régler tous les autres problèmes ou en parallèle, de l'immigration, de la géopolitique et tout ce qui va avec.
Isaac Bachichat, notre invité, on fait une pause musicale et on se retrouve dans un instant. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka Strasbourg pour cette émission spéciale États-Unis avec notre invité Isaac Bachochet, qui est le porte-parole du Parti républicain en France. Isaac Bachochet, on voudrait parler à présent de Donald Trump, personnage très problématique pour certains. Comment on pourrait le définir ?
Écoutez, il y a beaucoup de gens le définissent comme le démon, comme une personne pas bien. Moi, je vois pas forcément ça comme ça. Je vais vous dire ce que je ressens personnellement. Moi, je vois déjà sa famille. Alors, certes, il a eu plusieurs femmes, mais il a des enfants qui, à mon sens, sont toujours autour de lui, toujours bien éduqués, toujours bien posés, une très belle famille, qui ne sont pas des délinquants. Hein, j'ai dit ça par rapport à Joe Biden, qui a quand même eu des enfants en grande difficulté, dont un qui vient d'être gracié après avoir été condamné. Et ça en dit long sur l'éducation que Donald Trump envoie à ses les enfants et futures générations. Je rappelle qu'il ne fume pas, il ne prend pas d'alcool et autres. Après, effectivement, il a une légèreté dans ses propos. Il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit. Est-ce que c'est bien, pas bien? Moi, je pense que oui, il faut être assez transparent.
Ah, il y a des outrances de temps en temps, quand même.
Il y a des outrances. Après, c'est un showman. On est aux États-Unis. On est le pays du Super Bowl, Hollywood. Hein. Donc, on l'a vu quand il s'est fait insulter de poubelle, où ses électeurs se sont fait durant la campagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été malin. Bah, il s'est déguisé en poubellier. Il a été dans un camion de poubelle. Donc, c'est le show à l'américaine. Donc, on a vu Jill Biden, la femme de Joe Biden, présente à la cathédrale de Notre-Dame samedi soir, aux côtés de Donald Trump, en train de rigoler, papoter avec lui, alors qu'ils sont passés des mois, voire des années, à s'insulter avec son mari. Donc, c'est le show à l'américaine. Nous, Français, on a du mal à comprendre ça. C'est vrai que ça peut paraître outrancier et autre, mais c'est une culture. Après, est-ce qu'il y a des choses bien ou pas bien? Moi, je regarde les choses positives. Je regarde, c'est quelqu'un qui a quand même écrit un livre qui s'appelle L'art du deal, de faire des deals, et c'est quelqu'un qui le dit tout le temps. Il ne veut pas la guerre. Il ne veut pas la
guerre. D'accord. Alors, on va y en parler dans un instant sur toute la partie internationale. J'ai encore une question à vous poser. Depuis quelques jours, on entend beaucoup de noms. On commence un peu à voir cette nouvelle administration américaine se composer. Vous avez un avis sur cette composition? Il y a des postes qui vous ont semblé pas très adéquates?
Alors, adéquates, non. Mais moi, en tout cas, tous les noms qui ont été proposés jusqu'à présent me conviennent parfaitement. Je pense notamment, je ne peux que penser aussi à l'ambassadeur des États-Unis en Israël, le pasteur Huckabee, qui a dit que la Judée et Samarie n'existaient pas, étaient israéliennes. Donc ça, c'est des choses quand même très fortes qu'on se renvoyait.
Par rapport ici, à l'ambassadeur de France, qui est le beau-père de...
Voilà, le monsieur Kouchner, qui effectivement arrive en France, qui lui aussi a eu des démêlés avec la justice. Bon, il a été en prison, et comme tout justicier, il a été justiciable, et il a fait ce qu'il avait à faire, mais il veut autour de lui rapprocher des gens de confiance. Et quand on me dit, par exemple, Elon Musk au ministère de l'efficacité gouvernementale, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec Twitter, ancien Twitter X? Bah non, je ne comprends pas. Moi, ce que je dis, c'est que pendant la campagne, on nous amène Oprah Winfrey, Taylor Swift, tous ces gens-là, pour soutenir Kamala Harris. Et quand on amène Elon Musk, il y a un risque. Bah, on fait jouer son réseau. Et puis Elon Musk, comme Vivek Ramaswamy, qui sont les deux personnes qui ont été aussi, enfin notamment Vivek qui a été candidat, qui ont été choisis pour des postes importants, c'est des gens, non seulement de confiance, mais c'est des gens qui ont des compétences et des gens brillants. Donc pourquoi pas donner les mains de l'efficacité à Elon Musk quand on voit qu'il est la première puissance, enfin, première richesse mondiale, et qu'il a fait de Tesla une réussite. Moi, ce sont des gens brillants. Donc, quand il y a du sens, il faut effectivement le dire oui, c'est bien. Après, on a aussi des gens un peu plus régaliens, comme Marco Rubio, chef de la diplomatie, sénateur de la Floride. On a Mike Wiles. On a pas mal de gens qui, pour l'instant, en tout cas, tous les noms qu'on voit au fil de l'eau, nous paraissent, pour moi, parfaitement compétent pour le job. Et justement, ce ne sont pas des technocrates ou des gens qui sont issus de Washington. Ce que veut combattre de retrouver toute cette corruption que lui appelle à Washington, et de mettre non seulement des gens de confiance, c'est des gens qui ont fait le job dans leur périmètre respectif.
On va passer, Isaac Barchichat, avec vous à un des sujets très importants. C'est la politique étrangère de Donald Trump en Ukraine ou au Moyen-Orient avec les derniers développements en Syrie notamment. Clairement, Trump est du côté du gouvernement, en tout cas aux côtés du peuple israélien. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là.
En tout cas, ce qu'on entend de lui, c'est beaucoup plus rassurant que ce qu'on a pu entendre notamment de Biden ou de Obama. Je rappelle que Trump a été celui qui a mis en place les accords d'Abraham. Une réussite diplomatique extraordinaire que personne, même Clinton, n'avait pas réussi à faire. Donc je pense qu'il aurait pu continuer dans ce sens. On le disait d'ailleurs au lendemain de sa chute, de sa perte de son élection en 2020, qu'il y avait d'autres accords dans les tuyaux et que s'il avait eu le temps, il aurait pu faire de belles choses. Je pense qu'aujourd'hui, il veut aller plus loin, il veut neutraliser l'ennemi mondial qui est l'Iran et rassembler tous les pays autour de ce qui les rassemble, ce qui est le point commun, et c'est de trouver le chemin de la paix. Je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, malgré tout ce qu'on pense de lui, sa violence, son agressivité et autres, c'est quelqu'un qui négocie pour arriver à la paix et ne pas arriver à une violence inutile. On l'a vu en Ukraine, il l'a dit hier, il ne veut pas que des missiles américains soient lancés en Russie. Il estime qu'il faut trouver un bon accord plutôt qu'une guerre qui s'enlise depuis plus de 2 ans maintenant, qui a fait des milliers de morts et qui ne sert à rien. On le voit en Israël, le Liban, ça s'est calmé depuis quelques jours, pas parce que Biden s'en va et qu'on voulait lui faire Israël, on voulait lui faire un petit cadeau, une petite victoire, mais parce que Trump arrive. Et on le voit depuis maintenant 2 semaines.
Ça change vraiment les choses que Trump arrive ou c'est un peu de, du vent parce que finalement, les conflits vont perdurer. On a vu notamment que les otages ne sont toujours pas libérés. Ça n'a rien changé.
Alors, moi d'abord, je suis partisan de dire que les choses vont évoluer et j'espère rapidement parce qu'on en a tous besoin pour la paix dans le monde. La deuxième des choses, c'est qu'on voit parler d'un deal sur les otages depuis quelques jours maintenant que nous n'avions pas vu depuis très longtemps. Donc oui, c'est Trump aussi qui fait ça. Et puis Trump l'a dit clairement. Il a dit, comme on dit en yiddish, oi vai voi, si d'ici le 20 janvier, les otages ne sont pas libérés, et surtout on a des otages américains, attention, attention, ça va faire mal. Donc je pense sincèrement que le Moyen-Orient et le monde en général se préparent à cela, s'organisent à cela, de façon à ce que Trump ne devienne pas un ennemi du pays concerné. On a vu un Justin Trudeau partir il y a 2 semaines en Floride pour aller quémander la grâce de M. Trump pour éviter qu'il lui mette des tarifs de douane élevés. Parce que son pays serait en grandes difficultés. Donc on voit que les lignes sont en train de bouger à tous les niveaux, au niveau international, et tant mieux, parce qu'on rappelle que l'Amérique, qui n'est pas une Amérique forte, qui manque de leadership, ça donne un chaos un peu mondial, avec un Saad qu'on a vu en Syrie, et je pense que la Syrie, la chute de la Syrie est aussi liée à cela, hein, et que Trump et Baby se parlent énormément, et que c'est pas pour rien que les choses s'enchaînent les unes après les autres, et nous espérons voir de très belles choses à partir du 20 janvier.
Alors, Isabelle Barsuchat, merci beaucoup. On va vous demander de changer de casquette, parce que vous êtes également le président de All Ami France. En 2 mots, c'est quoi All Ami?
Si je peux me permettre, mon cher Jean, c'est plutôt Mizrahi France.
Autant pour moi.
Lié avec Olami. Alors, Mizrahi France, c'est un mouvement plutôt juif qui relie trois éléments importants. La terre d'Israël, le peuple d'Israël et la Torah d'Israël.
D'accord.
Donc, bien évidemment que tout, comme on fait les prières tous les jours, tous nos yeux sont orientés vers Israël, mais que quand on vit en Israël ou en France ou aux États-Unis, on est lié par ces trois choses. La Torah, le peuple et la terre d'Israël. Et donc, c'est faire vivre ces valeurs, où qu'on soit dans le monde entier, pour se sentir faire partie d'une grande communauté, d'un grand peuple. Et on l'a vu depuis le 7 octobre. Aujourd'hui, que même les libéraux, les religieux, les laïcs, les pas-religieux et autres, se sont tous rassemblés autour de ce que c'est la cause juive, parce qu'on l'a vu que cet événement, malheureusement, a apporté une certaine unité au sein du peuple juif, et c'est aussi ça le rôle de Mizrahi, de pouvoir apporter toutes ces bonnes ondes pour le peuple juif qui s'unissent autour des trois valeurs que j'ai citées.
Isaac Barsuchat, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. On aura peut-être l'occasion de se reparler pour parler des États-Unis et de Mizrahi et d'autres postes que vous occupez, puisque vous êtes, je crois, aussi adjoint au maire de la ville de Saint-Brice, c'est ça?
C'est exact.
Voilà, donc on pourra peut-être en reparler. Merci beaucoup et à très bientôt.